rentrer dans ce moment de culte par le psaume 100, numéro 100, voilà, hein, qui sera chanté par l'ensemble Cantica. Voilà, donc à toi Antoine. Entendre la parole de Luc, la parole du Christ par l'évangile de Luc au chapitre 12, versets 22 et suivants. Jésus dit à ses disciples, « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez, car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que les oiseaux? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence? Si donc vous êtes sans pouvoir, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez pour tout le reste? Observez les lys, ils ne filent ni ne tissent. Et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi en plein champ l'herbe qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, combien plus le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ce ne vous tourmentez pas. Tout cela, les païens de ce monde le recherchent sans répit. Mais vous, votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Voilà, chers amis et frères et sœurs, nous voici aujourd'hui entre la peur, l'interrogation et puis l'espérance, évidemment. Il y a des signes de rétablissement de l'épidémie qui sont là depuis maintenant pas mal de jours, il faut le dire et s'en réjouir. Et demain commence chez nous au moins ce qu'on appelle le déconfinement. Alors évidemment, on se pose quelques questions, comment ça va se passer, est-ce que ça va durer longtemps, et ainsi de suite, mais pourvu que l'épidémie ne reprenne pas. Alors, on scrute les statistiques, on attend des nouvelles, etc., qui sont souvent alarmistes, quelquefois avec un peu d'espoir, et voilà, et nos préoccupations nous envahissent un peu. Les actualités en boucle ne nous aident pas vraiment, une sorte de complaisance dans le catastrophisme, je veux dire, s'insinue un petit peu partout. Mais je voudrais quand même vous rappeler que dans le monde, il y a 7 milliards de rescapés du virus et que la plupart des malades guérissent quand même. Il ne faut pas oublier cela. Alors, à quel sein se vouer? Face à des questions de son temps, prévoir l'avenir, se nourrir, se vêtir, Jésus répond, il y a un essentiel et c'est Dieu, votre Père. Votre Père qui sait, etc., ce dont vous avez besoin. Et donc, cherchez le royaume, c'est-à-dire d'abord et avant tout la parole de Dieu. Elle donne de l'espoir, elle donne du sens, elle donne l'énergie de faire face, finalement. Cette parole, nous la partageons ensemble. Et j'espère qu'elle nourrira les uns et les autres comme elle nourrit les corbeaux et, ou comme elle habille les lys des champs. J'espère qu'elle apportera un petit peu de joie, de lumière et d'espoir à tout un chacun. Soyez donc les bienvenus, toutes et tous, quelles que soient les motivations qui vous ont amené sur ces ondes ce dimanche matin. Soyez vraiment les bienvenus pour vivre tout cela et surtout cette espérance placée en la parole de Dieu. Je vous invite à prier Dieu. Oui, c'est vrai, Père, que tu habilles les lys des champs et que tu nourris les corbeaux et les oiseaux du ciel. C'est une parole que nous connaissons, cela, depuis que nous allons au catéchisme, évidemment. Mais c'est vrai aussi que tu es celui qui nous donne l'essentiel pour vivre. C'est vrai que la vie n'est pas que la nourriture, que des habits, hein, que nos préoccupations au quotidien, mais la vie est bien plus que cela. La vie, c'est vraiment d'abord ta parole qui nous transporte, qui nous donne de l'espérance, ta parole qui nous permet d'être autres, de nous dépasser nous-mêmes finalement et de regarder vers l'avenir. Alors Père, que cette parole vienne éclairer notre vie véritablement, que cette parole soit là comme une exhortation, une invitation, que cette parole soit là comme le don que tu nous fais, le signe de la grâce. Tout cela, nous en avons besoin pour vivre, Père. Ouvre nos cœurs à ta parole. Amen. Alors, je vous invite à entendre quelques passages bibliques, évidemment, en plus de celui que je vous ai lu en introduction. Vous savez que j'aime bien le faire, à tort ou à raison. Le premier texte que je vous invite à partager, c'est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1er de ce livre d'Ésaïe, les versets 10 et suivants. 10 à 20 exactement. « Écoutez la parole du Seigneur, grand de Sodome. Prêtez l'oreille à l'instruction de notre Dieu, peuple de Gomorre. Que me fait la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur. Les holocaustes de béliers, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des troupeaux, des agneaux, des boucs, j'en veux plus. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes, la fumée, j'en ai horreur. Néoménie, sabbat, convocation d'assemblée, je n'en puis plus des forfaits et des fêtes. Vos néoménies et vos solennités, je les déteste. Elles me sont un fardeau. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, mettez au pas l'exacteur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Venez, discutons, dit le Seigneur, et vos péchés seront comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous voulez écouter, vous mangerez des bonnes choses du pays. Si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. La bouche du Seigneur a parlé. Alors, à l'autre bout de la Bible, de l'Écriture, dans l'Évangile de Matthieu, trois petits passages que vous connaissez bien, j'espère, au chapitre 5, d'abord les versets 13 à 16, puis au chapitre 7, les versets 1 à 6 et le verset 12. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment deviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut pas être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Voilà, j'espère que vous connaissiez bien ce passage. Alors voici un autre qui est tout aussi connu, bien évidemment, mais qu'il est bon de rappeler de temps à autre. Verset, chapitre 7, verset 1, verset 1 à 6. Ne vous posez pas en juge afin de ne pas être jugé, car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera, et c'est la mesure dont vous vous servirez qui servira de mesure pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou bien comment vas-tu dire à ton frère, attends que j'ôte la paille de ton œil, seulement voilà, la poutre est dans ton œil. Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. » Et puis, quelques lignes plus loin, nous avons le verset 12. « Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux, c'est la loi et les prophètes. » Et dans ce patchwork de texte, je vous invite à entendre in fine, dans l'épître aux Thessaloniciens au chapitre 5, la finale, une partie de la finale de cette épître, au verset 14 et suivant. « Nous vous exhortons, frères, reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée, donnez du courage à ceux qui en ont peu, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. » Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les paroles des prophètes, examinez toutes avec discernement, retenez ce qui est bon, tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. » Père, ta parole est variée, elle vient du fond des âges, elle a traversé des siècles pour venir nous toucher les uns les autres. Ta parole porte en elle quelque chose de la vérité, quelque chose de la sagesse, elle porte en elle une force de vie. Merci Père pour cette parole. Amen. Alors, on va revenir sur ces textes, hein, bien évidemment. Il y en a beaucoup. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec toutes ces lectures. Mais enfin voilà, ces textes, ils m'ont interpellé parce qu'ils parlent de la religion. La religion dont on ne connaît pas très bien l'étymologie, on se demande si ça vient du latin religare ou religere, c'est-à-dire relier ou relire. Peut-être que les deux étymologies se recoupent pour être exactes l'une comme l'autre et se compléter, je veux dire. Mais quoi qu'il en soit, la religion, c'est un phénomène universel. Depuis qu'on a des textes d'histoire, on sait que la religion existe et elle existe aussi vraisemblablement très loin dans la préhistoire. Au moins jusqu'aux hommes de Néandertal inclus. Hein, les premiers signes que l'on a remontent à 200 ou 300 000 ans, donc commence à faire pas mal de temps, hein, finalement. Alors la religion, telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui, elle est problématique, évidemment. On y croit, on n'y croit pas, on entre dedans, on n'entre pas dedans, mais dans tous les cas, elle est une réponse aux questions ultimes, c'est-à-dire quel est le sens de la vie, qu'est-ce qu'il y a après la mort, etc. Ce type de questions qui ne sont pas du tout évidentes quand on veut répondre à ces questions, évidemment. Hein. Mais la religion y répond. Elle y répond par un ensemble de croyances, d'abord, de rites, évidemment, de gestes qui sont là, des prières, des chants, des pèlerinages aussi, des lieux spéciaux pour faire des réunions, des rencontres, etc. On trouve ça vraiment partout. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'on trouve de la religion, même dans la laïcité, qui pourtant se méfie terriblement de la religion, comme de la peste, comme du corona, hein, je dirais, pour ne pas faire de jeux de mots pénibles. Mais voilà. Et pourtant, il y a de la religion dans la laïcité. Je vous donne quelques exemples. Les grands messes du sport, par exemple. Pourquoi on dit les grands messes? Pour parler des grandes rencontres sportives. Et le 14 juillet, si ce n'est pas religieux, ce truc-là... voilà, hein, où on se rattache au passé, voilà, on est en train de se retrouver autour des idées qui ont été véhiculées depuis le 14 juillet. Mais il y a d'autres rites aussi dans la laïcité. Je pense au bizutage des grandes écoles. Bon, c'est pas très glorieux, souvent quand ça dérape ou ça devient franchement pénible et scandaleux, mais il n'empêche que ce sont des rites de passage et d'accueil, d'une manière ou d'une autre, on apprécie ou pas, mais c'est comme ça. Et puis, alors, pour nos jeunes qui, à l'heure actuelle, se pose quelques questions. Il y a le baccalauréat. Le baccalauréat, c'est un rite de passage, c'est un rituel, évidemment, qui concerne les impétrants, comme on dit, mais aussi toute la famille qui est autour, les amis, les camarades, et ainsi de suite. Vous voyez que le phénomène religieux est un phénomène qui touche tout le monde de différentes manières, évidemment. Alors la religion, elle est là pour souder les gens les uns aux autres, on se retrouve par des signes dont les gens sont porteurs. Moi, je suis certain que si vous partez en vacances et que vous rencontrez une famille dont les femmes ont autour du cou une croix huguenote, ces gens-là vous semblent d'emblée plutôt sympathiques et vous seriez enclin à leur poser la question, tiens, vous êtes protestant, vous êtes de quelle paroisse, etc. Je veux dire, c'est des choses qui nous arrivent, qui me sont arrivées aussi, évidemment. Hein, ça donne du sens, évidemment, à la religion, parce que les religions nous disent d'où on vient. Je veux dire, la religion laïque nous dit qu'on vient de la Révolution française. Relisez Michelet, relisez toutes ces grandes sagas d'histoire de France qui ont été écrites en une vingtaine de volumes chacune tout au long du XIXe siècle, dire pour clôturer cette Révolution française et donner du sens, et donner du sens au peuple d'aujourd'hui. Mais pour nous, ça donne du sens, parce que la religion chrétienne, parce qu'il y a Dieu qui est à l'origine, et Dieu qui est à l'arrivée, si je puis dire, avec la fin des temps. Mais bien sûr, c'est toute une histoire, des slogans qui sont là, et c'est tout un message d'espérance aussi. La religion, ça nous dit finalement que nous sommes dans la présence de Dieu, et que la vie est plus forte que n'importe quoi, au total. Dans la Bible porte en elle la religion monothéiste des Hébreux, des Juifs, des chrétiens et des musulmans aussi, bien évidemment, il ne faut pas les oublier, parce qu'ils n'ont pas que le Coran, ils ont avant le Coran la Bible. Alors, cette Bible elle porte en elle la loi du Pentateuque, qui donne des directives complexes, pointilleuses même, mais qui permet d'organiser la vie sociale, l'histoire et l'espérance du peuple. Et les Juifs d'aujourd'hui vivent toujours de cette loi, de cette Torah, de ce Pentateuque. Alors, est-ce si simple tout ça? Est-ce si simple? Eh bien, c'est pas si simple que ça. Esaïe, très tôt, dès le 8e siècle, dénonce en Juda, c'est-à-dire dans le royaume du Sud, autour de Jérusalem, dénonce des pratiques qui sont des pratiques formelles, des pratiques qui sont vides de sens. Ils sont vides de sens et qui déshonorent même le Dieu qu'elles veulent honorer. Il y a une certaine amertume et une certaine violence même dans la prophétie d'Ésaïe, finalement, qui met le doigt sur ce problème très, très embêtant. Des pratiques, finalement, qui ne débouchent pas sur la justice que Dieu veut. Dieu veut qu'il y ait une justice sociale, parce que Dieu ne peut pas penser que dans son peuple, il puisse y avoir des gens qui soient laissés sur le carreau, laissés sur le bord de la route, véritablement. Donc ça, c'est quelque chose qui est intolérable pour Dieu, finalement. Hein, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sont sous le coup, tous sous le coup de la même promesse. Or, pour Esaïe, ce problème qui est posé, là, d'une religion formelle qui ne débouche pas sur une justice vis-à-vis de tout le monde, est une hérésie grave. C'est vrai que dans ce cas-là, il y a des risques de dislocation de la société. Il y a le problème de la promesse qui ne passe plus très bien, puisqu'elle va passer que par ceux qui vont pratiquer, qui ont les moyens de faire des holocaustes, des choses comme ça, et qui s'y croient finalement, à tort ou à raison, voilà. Hein. Et puis, il y a la valeur de l'individu qui est bafouée. Hein. L'homme a été créé à l'image de Dieu, et le moindre des derniers de la société, qu'il soit clochard, qu'il soit en prison, qu'il soit président de la République, eh bien, peu importe, il a de la valeur parce qu'il est à l'image de Dieu. Là, il y a des risques graves dans ce que Esaïe voit comme une hérésie. Et il n'est pas le seul. Osée, un autre prophète à peu près de la même époque, fait dire à Dieu, c'est l'amour qui me plaît, et non pas le sacrifice, carrément. C'est dans le chapitre 6 du livre d'Osée. Mais vous prenez Amos, Jérémie, enfin tous les grands prophètes vont exactement dans le même sens et mettre le doigt sur ce problème, vieux problème pour la Bible, car une pratique sans éthique, sans conversion, un métanoïa, sans remise en cause, est idolâtre et superstitieuse, parce qu'elle est tournée vers l'intérieur, vers le développement de son ego, qui finalement est asséchant. Il n'y a rien de plus embêtant que des gens qui ont un ego surdimensionné. Ils cassent les pieds à tout le monde, ils font le vide autour d'eux, et finalement, ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à s'ouvrir au monde. C'est un problème qui nous guette tous, du reste. Il faut voir les choses comme elles sont. C'est le problème des œuvres. C'est le problème des œuvres. Ces pratiques qui sont automatiques, qui sont obligatoires, il faut les faire pour être sauvé, pour gagner le royaume, etc. Mais c'est pas du tout un état d'esprit de gens qui sont convertis et qui viennent à Dieu à l'époque du 8e siècle avec la joie, la reconnaissance et l'envie de créer une société où tout un chacun a véritablement sa place. Alors Jésus s'inscrit dans le message prophétique, il appartient à ce courant prophétique qui traverse la Bible, non pas qu'il nie l'intérêt de la loi, d'abord Jésus n'a jamais nié la loi, et il arrive même qu'il l'applique directement lorsqu'il dit à ceux qui sont guéris de la lèpre, par exemple, d'une impureté, il dit « allez voir le grand prêtre, faites les rituels qu'il faut pour ça, etc. » Donc on voit bien que Jésus s'inscrit complètement dans la loi, il ne la renie jamais, évidemment, mais il pose le problème, lui aussi, il pose le problème, c'est la personne qui compte véritablement dans sa propre vie, c'est l'autre qui est important, c'est sa liberté, son rayonnement, ce sont ses espérances qu'il faut, auxquelles il faut être attentif, dire véritablement, et lorsque Jésus dit « vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde », c'est quelque chose d'assez fabuleux, je veux dire. Il ne dit pas les hommes sont la lumière du monde, non. Il s'adresse personnellement aux gens. C'est vous. Quand vous lisez ce texte, eh bien, c'est que vous, lecteurs, lectrices, jeunes, vieux, etc., vous êtes directement interpellés dans votre être. Véritablement. Et on trouve cela dans d'autres passages de l'Écriture du Nouveau Testament. Je ne fais pas que faire passer mes idées personnelles là-dessus. Il y a d'autres textes qui vont dans le même sens. Lorsque Jésus dit aux aveugles au pluriel ou aux paralysés « qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Qu'est-ce que vous voulez ?» Qu'est-ce que vous voulez là, le « tu » que Jésus adresse à la personne est un questionnement qui renvoie cette personne à son problème intérieur, son problème qu'il n'arrive pas à exprimer, un problème que personne lui a demandé de poser. Jésus lui dit « toi, vous ». Vous êtes célibataire, toi, qu'est-ce que tu veux, de quoi as-tu vraiment besoin? Il y a une interpellation qui est là. Le sermon est là pour nous, sermon sur la montagne, excusez-moi, le sermon est là avec ce « vous êtes célibataire », porteur d'une dynamique extraordinaire, une dynamique qu'on va retrouver dans la règle d'or que je vous ai lue. Vous savez que la règle d'or est universelle, on la trouve dans toutes les philosophies du monde, dans toutes les religions du monde en gros, et en général, elle est négative. C'est ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Ne faites pas aux autres. Tandis que Jésus dit, fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aux autres. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique. On ne se replie pas sur soi par une négation. Bon, on va pas faire aux autres. Bon, on va pas bouger. On va pas les embêter. Mais au contraire, allez-y, sortez de vous-même et faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse véritablement. Donc, plutôt du bien, évidemment, je veux dire, dans un monde avec des gens qui sont normaux. Et ça, c'est intéressant, vous voyez, vous êtes le sel de la terre, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, aveugle, paralysé, etc. Écoutez, faites le bien autour de vous, allez écouter les gens, etc. La règle d'or, elle pose l'autre dans sa dignité, mais ça nous questionne, évidemment, en retour. Mais ben, vous êtes celle de la terre. Oui, bien sûr, ok, ça c'est quand même assez génial, on va le voir. Mais, si vous êtes celle de la terre, que ça signifie pour vous? Faites attention, je veux dire, parce que c'est pas n'importe quoi. Je veux dire que d'entendre une parole comme cela, d'entendre tout le sermon sur la montagne qui tourne autour de ces idées-là, de dire d'être heureux dans la béatitude, etc., de dire le Notre Père, donc s'adresser à Dieu directement et ainsi de suite. Donc la paille et la poutre, elle est là pour nous mettre en garde. Faites attention, faites gaffe, parce que de toutes les manières, si vous allez vers les autres, mais c'est pas pour les juger, c'est pas pour leur dire, écoutez, vous voyez le truc que vous avez là, alors que personnellement, on a tous quelque chose en nous qui nous pèse finalement. Et donc, il faut faire bien attention, parce que si nous jugeons les gens, si nous sortons de nous-mêmes pour juger les gens, alors le soleil ne brillera plus dans notre regard, nous ne serons plus le sel de la terre, mais nous serons ceux qui seront jugés, évidemment, parce que juger les autres, c'est révéler quelque chose de nous-mêmes, c'est révéler une part de nous-mêmes. D'abord, le fait de vouloir les dominer, c'est toujours embêtant. C'est-à-dire juger quelqu'un, c'est vouloir le dominer, hein, c'est vouloir le mettre en catégorie, hein, véritablement. Et donc ça, c'est quand même extrêmement gênant de cela. Et c'est révéler des problèmes que nous avons, peut-être le problème de l'orgueil en premier. Attention à la poutre qui est là. Alors, dans tout ce que dit Jésus, ce qui est assez intéressant, dans tout ce sermon sur la montagne, c'est assez curieux de voir qu'il n'y a pas de rite du tout, qui n'a pas de directive, pas de sacrifice, je veux dire, pas de morale non plus. C'est ça qui est intéressant. Il y a de la dynamique, mais il n'y a pas de la morale finalement. Hein, on ne dit pas ce qu'il faut faire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ce sont des interpellations, ce sont des paroles. Il n'y a pas d'obligation, je veux dire. Hein, cette parole est là pour essayer de nous exhorter, de nous faire vivre. Dans notre religion chrétienne, nous ne devons pas avoir de morale, nous ne devons pas avoir d'obligation, absolument pas. Nous avons des interpellations, nous avons des appels, mais pas de morale et pas d'obligation. Jamais je dis à mes catéchumènes, vous êtes obligés d'aller au culte. Jamais, ce n'est pas une obligation. Mais en revanche, j'essaie de leur dire, vous y allez quand même, alors vous allez me dire où est la différence, parce que vous en avez envie ou besoin. Ce n'est pas tout pareil, je veux dire. Hein, le christianisme, c'est quand même normalement un lieu de liberté, de respect. Ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas dans l'irresponsabilité, bien sûr, ça va de soi. Alors Jésus n'est pas vraiment dans la pratique religieuse ou rarement, mais en fait il est porteur de l'esprit de lumière, de l'esprit de dynamisme, d'un élan vital, il est porteur de la communion, de la justice sociale. En bref, il prêche l'amour de Dieu dans les relations entre Dieu et les hommes, bien sûr, et entre les hommes entre eux. C'est ça qui est intéressant. Les liens qui nous unissent les uns les autres, eh bien, sont révélateurs de la manière dont nous voyons le lien qui nous unit à Dieu. Si nous avons conscience qu'il y a un Dieu d'amour, un Dieu de la grâce, un Dieu qui est dynamique, un Dieu qui veut la justice sociale, alors, normalement, en retour, naturellement, eh bien, dans même élan vital, on a envie d'aller vers les autres, et évidemment, dans ces relations interhumaines. Alors, la salutation finale de l'épître aux Thessaloniciens que je vous ai lue est quand même très signifiante à cet égard. Il y a cette parole qui est là, en plein milieu, qui dit « n'éteignez pas l'esprit ». Enfin, c'est vrai, l'esprit, il est là. L'esprit du monde, du cosmos, de la création, de l'esprit de Dieu est là. Il est au cœur de tout être humain et il ne faut pas l'éteindre. Il ne faut pas l'éteindre. Il faut vraiment essayer de le faire vivre, de le mettre en exergue. Il faut vraiment être la lumière du monde. Hein, alors, ça implique qu'il faut tisser des relations avec ceux qui sont le plus à aider. C'est ce que dit cette exhortation. Hein, ne laissez pas les gens déraper dans l'égoïsme, dans l'orgueil, hein, dans le repliement sur soi, etc. En gros, c'est ça ce que dit cette salutation. Vivez en bonne intelligence les uns avec les autres. Hein, c'est un appel parce que dans cette salutation, si on y regarde d'à peu près, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'image du royaume. C'est ça qui est assez sympathique dans cette salutation qui est extrêmement dynamique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il n'y a pas comme dans l'épître aux Romains, par exemple, tu salueras un tel, hein, avec une longue liste de gens auxquels il faudra dire un mot sympathique. Non, il y a cette exhortation qui dit, mais écoutez les gars, allez-y, aimez-vous vraiment les uns les autres, soyez les uns pour les autres, la lumière du monde. Alors, être le sel de la terre, la lumière du monde, je crois que c'est un projet de Dieu. Un projet de Dieu. C'est ça qui est formidable dans cette parole. C'est peut-être pour ça que dans sa simplicité, elle nous frappe tous et que nous la connaissons tous. Même des gens qui ne sont pas chrétiens ont entendu cette parole un jour et peut-être en ont-ils vécu du reste à leur insu. Voilà, elle nous touche tous. Et je crois que là aussi, semble-t-il, lorsqu'on lit ce texte, c'est vrai que Jésus s'adresse à ses disciples, c'est vrai qu'il s'adresse à ses auditeurs du moment, mais au-delà, je veux dire, si les gens qui ont écrit l'Évangile ont retenu ces passages, c'est que pour tous les lecteurs, puissent se dire, ben, moi je suis dans la lumière, je suis la lumière aussi d'une certaine manière. Et c'est d'autant plus formidable que si nous rencontrons quelqu'un, quel qu'il soit, on pourra se dire, ben, lui aussi, il est la lumière du monde. Lui aussi, elle aussi, est lumière. Alors, je trouve que dans un monde qui est souvent sombre à cause des injustices sociales, nous savons qu'elles sont nombreuses et qu'elles datent pas d'hier, malheureusement, hein, dans un monde où il y a toujours des guerres, vous le savez, je vous l'ai déjà dit une ou deux fois, depuis que l'histoire existe, eh bien, il n'y a pas eu d'année de paix sur la Terre. Est-ce que Gaston Boutoux, le fondateur de l'Institut de polémologie, ben, au début des années 60, avait remarqué, je veux dire, c'est un peu désespérant, mais c'est comme ça, je veux dire, dans ce monde où il y a des maladies, on ne le sait que trop aujourd'hui, malheureusement, je trouve que briller, c'est donner de l'espérance. Voilà, c'est briller, c'est donner de l'espérance. C'est dire non à la fatalité du mal. C'est dire non à la nuit, non à tout ce qui est noir. Hein? Mais c'est dire, voilà, il y a une lumière quelque part. Nous sommes la lumière, même si nous apportons une toute petite, petite lumière, ça ne fait rien, ça suffit pour éclairer et être intéressant. Il y a cette espérance que nous portons, parce que nous sommes lumière du monde, et le courage d'être soi aussi. Je crois que briller, c'est se libérer aussi soi-même, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque nous avons une relation à quelqu'un, cette relation se retourne aussi contre nous automatiquement. Briller, c'est se libérer d'abord soi-même de ce qui nous pèse, des préjugés que nous avons, des jugements hâtifs, des obligations. Hein, c'est comme le disait Hannah Arendt, on a discuté peut-être avec certains du groupe de philosophie, je ne sais pas, hein, c'est la première des libertés, hein. Mais c'est une liberté aussi qui nous oblige et qui nous permet d'aller à autrui sans jugement, voir en l'autre ce qu'il y a de positif. Se débarrasser de sa poutre pour juger autrui, hein, ça révèle souvent notre manière d'être, notre problème caché. Cette poutre, elle est là. Et attention à ce jugement dont je parlais qui peut se retourner. Ce qui compte dans cette démarche, finalement, c'est d'être dans une démarche d'existence qui nous permet d'avoir avec les autres le fait de pouvoir bâtir une société qui vient se coller sur notre société de tous les jours, mais une société qui va éviter finalement la monolâtrie. Parce que la monolâtrie, le fait d'idolâtrer un dieu, c'est finalement s'idolâtrer soi-même. Se libérer de nos problèmes, de notre idolâtrie personnelle finalement, c'est s'ouvrir au monde de manière formidable. Et je crois que Jésus-Christ, lorsqu'il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », va dans ce sens, il s'ouvre de manière formidable au monde parce qu'il prie pour ses bourreaux. Et je pense que quand on est comme les gens de la CAT, Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, qu'on porte des témoignages formidables, on entend des choses extraordinaires. On dit, mais on entend on a le témoignage de gens qui sont torturés, qui prient pour leur bourreau, pour que leur bourreau se libère du problème du mal. Voyez, mais c'est vrai qu'il faut aussi prier pour nos dirigeants. Parfois, ils nous cassent les pieds, nos dirigeants, on les comprend pas toujours. On n'est pas souvent d'accord avec eux, avec leurs options politiques, économiques et sociales. Et pourtant, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux parce qu'eux aussi sont porteurs d'une lumière en eux. C'est-à-dire, il faut que cette lumière puisse sortir véritablement. Et il faut prier pour les bandits, pour les dictateurs de tout poil, pour les chefs de guerre aussi. Quand même, ces types qui font la guerre, qui n'hésitent pas à tuer, je veux dire, pour des tas de raisons d'ailleurs, peu importe. Je veux dire, mais voilà, prier pour ces gens-là. Voilà. Et d'abord, certains d'entre eux, on ne s'en rend pas compte, ont des cas de conscience qu'ils ont du mal à supporter. Quand j'ai rencontré le patronat chrétien, pendant plusieurs fois, j'étais aumônier du patronat chrétien, j'étais étonné de voir des grands patrons qui avaient des cas de conscience incroyables lorsqu'ils étaient obligés de mettre au chômage leurs employés. C'est très facile de dire, oh, les patrons, si, les patrons, ça, gnagnagna, ça, c'est, voilà, hein, c'est la paille et la poutre. Alors que des pauvres types, ils n'en dorment pas la nuit, quoi. Non, pas tous, hein, peut-être, mais voilà. Mais il faut prier pour les autres, il faut s'ouvrir, essayer de les comprendre, se mettre à leur place, hein, voilà. Mais se mettre à leur place, mais toujours, toujours, toujours s'en remettre à Dieu. Dire, voilà. Il y a la lumière de Dieu, elle est là au début de la création, elle est en nous, cette lumière de Dieu, Dieu nous en fait un don, cadeau. Il faut se reporter à cette parole de Dieu, à cette lumière de Dieu régulièrement, je crois, pour éviter de tomber dans le piège de l'orgueil du super paroissien, du super chrétien, que sais-je encore. Voilà, prier pour les bourreaux, c'est vraiment affirmer une grande liberté intérieure, ce qui n'exclut pas évidemment de mettre le doigt sur les dérapages, évidemment, mais de faire de manière constructive. Hein. Voilà, c'est aussi le signe de, quand on prie pour les bourreaux, pour les assassins et que sais-je encore, c'est le signe d'un amour pour les autres et pour le monde. Et je crois que c'est ouvrir une porte au ciel lorsqu'on arrive à le faire, hein, être la lumière du monde. Alors vous me direz comment faire. Comment faire? La Bible ne montre jamais l'impossible. À chacun ses charismes ou ses talents, comme on l'a vu hier lors de l'étude biblique sur la parabole des talents. Hein, chacun de soi a en lui de quoi briller, hein, de quoi être lumière du monde, véritablement. Mais pour cela, il faut un peu s'examiner soi-même, savoir que nous sommes limités, que nous sommes des créatures et que nous avons besoin les uns des autres et besoin de Dieu. Il faut avoir la confiance en Dieu, évidemment, d'abord, et confiance aux autres, parce que les autres pourront faire ce que je ne peux pas faire et moi je peux faire ce que les autres ne peuvent pas faire. C'est de là que naît la communion finalement, hein, dans l'accueil de l'autre, dans le respect évidemment et dans l'épanouissement des uns et des autres. Ce qui compte ici, ce qui brille, ce n'est pas la quantité mais c'est la qualité, la manière dont on va faire les choses. Les exemples sont nombreux, par exemple l'offrande de la pauvre veuve qui donne 2-3 pièces pour le trésorier, ça n'arrange pas son affaire. Mais pourtant, dans la manière dont elle le fait, c'est là où est toute la valeur, alors que le riche qui va donner une somme importante ne se prive absolument de rien. C'est-à-dire, lui, on fait peut-être quantitativement un don important, mais qualitativement parlant, ce don n'a pas du tout la valeur des quelques pièces que la veuve a données. Dire Zachée aussi a une relation tout à fait aux autres de qualité, puisqu'il se débarrasse d'une partie de sa fortune pour la distribuer, et ainsi de suite. Mais c'est vrai, dans notre vie quotidienne, on peut le mesurer aussi. Je crois que c'est dans des gestes qui sont très très simples de notre vie quotidienne que nous brillons. Par exemple, lorsque nous disons bonjour à quelqu'un le matin, c'est une bénédiction, il ne faut pas l'oublier, hein, le bonjour. Hein, on ne souhaite pas une mauvaise journée aux gens, dire bonjour. Mais comment le faisons-nous? De manière automatique, bonjour madame, bonjour monsieur, etc. Ou est-ce que nous souhaitons profondément une bénédiction à la personne que nous rencontrons? Vous voyez, hein, dans le second cas, nous sommes porteurs de la lumière. Véritablement, nous sommes lumière du monde, hein, et nous sommes celle de la terre. Je citais hier dans l'étude biblique, hein, les repas du casme, vous voyez, ces repas où on accueille les gens. Ben, la lumière, être lumière du monde, eh bien, c'est lorsqu'on met sur la table où les gens vont manger un bouquet de fleurs. Ça, c'est être la lumière du monde. Ces fleurs qui sont posées sur les tables, c'est vraiment un bouquet de lumière. Vraiment, vous voyez, c'est pas que la nourriture, c'est toute une manière d'être qui est là dans notre quotidien quand on s'accueille les uns les autres dans la simplicité. Voilà, nous sommes lumière du monde, c'est un don, c'est la grâce, c'est le signe même de la grâce. Vous êtes le signe, vous êtes la lumière du monde, vous êtes ceux qui reçoivent cette lumière qui vient de Dieu. Vous êtes celui ou celle à qui Dieu a dit « qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» véritablement. Hein, et auquel on répond, ben, j'aimerais bien avoir un peu de lumière, un peu de sens, un peu d'espoir et un peu de tout ça à partager véritablement avec les talents que j'ai en moi, avec les dons que j'ai reçus, soit par la nature, soit par Dieu. Voilà, nous sommes lumière du monde et nous sommes les bâtisseurs d'espérance et nous sommes ainsi les témoins de l'amour de Dieu pour tout un chacun et pour le monde. Amen. cela, je vous invite à prier Dieu. Père, par la grâce, tu nous offres la possibilité d'être lumière du monde et celle de la terre. Donne-nous la force de vivre ce don dans la fidélité de ton enseignement. Que ta lumière baigne ce monde, en particulier ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui nous semblent éloignés de nous. Que chacun dans ce monde soit au service de la justice et de la solidarité. Il y a des enfants dans nos prières, ils vont retourner à l'école demain, mais les autres, tous les autres, ceux qui dans les pays pauvres n'ont pas d'école, ceux qui sont déjà au travail dans les usines, nos usines, ceux qui sont enrôlés dans les armées, ils sont 200 000 à 300 000, et puis les enfants malades, ceux dont le regard est perdu vers un monde qu'ils ne comprennent pas. Et puis à l'autre bout de la vie, il y a tous ces gens âgés. Ils sont séparés de leurs proches. Que ton esprit les illumine eux aussi, un peu d'espérance. Nous te remettons ceux auxquels nous pensons, mais aussi bien d'autres qui nous échappent bien évidemment. Père, merci. Merci pour nos prières incomplètes et maladroites. Nous savons qu'elles sont reçues malgré tout. Merci pour les rayons de soleil qui nous touchent. Un appel au téléphone, un mail, un dessin d'enfant ou un rire entendu dans la rue. 1000 petites choses porteuses de ton royaume. Notre Père, si près de nous que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, mais aussi ce pain de vie dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos offenses, même si nous ne savons pas toujours bien pardonner. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car en toi sont la vie, la joie, l'espérance, la foi et l'amour. Amen. Chers amis, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. J'espère que vous en avez conscience. Peut-être pas, mais c'est ainsi. Oui, vous avez en vous ce don que Dieu a déposé au cœur même de votre vie. Parce qu'il y a entre Dieu et chacune et chacun d'entre nous une relation privilégiée qui est là pour nous faire vivre et faire de chacune et chacun d'entre nous le témoin de la foi, le témoin de la joie et de l'espérance. Alors allez dans ce monde, porteur de ce message, allez briller dans ce monde, donnez un peu d'espérance dans cette nuit qui nous enveloppe et pour que les gens puissent dire non, il n'y a pas de fatalité au mal. Non, il n'y a pas de fatalité aux maladies, aux guerres, aux violences de toutes sortes. Mais oui, à l'espérance, à la joie et à l'amour. Vous êtes les bénis de Dieu. Vous êtes comme les lys des champs ou comme les corbeaux du ciel. Dieu prendra soin de vous. Parce que Dieu aime tout un chacun de la même manière, avec la même force, la même joie et la même espérance. Alors allez en paix. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde maintenant et à jamais. Amen. Et avant les annonces, et le moment où on se sépare, on entend le chœur de l'université de Stellenbosch qui va nous chanter en Swahili. Il va nous chanter de Notre Père.
Cool.
C'est bon? Hey. ta lumière brille, hein, en Swahili, soit en Afrique, en Amérique, en France ou ailleurs, peu importe, ou en Asie, je veux dire, il y a toujours la lumière de Dieu qui est là pour nous dire l'espérance. Et l'espérance, si je vous en donner un petit peu, là, par cette annonce, c'est que la vie reprend un peu à la normale, en tous les cas, il faut la faire repartir absolument. Alors, Bernard Pietre m'a téléphoné tout à l'heure pour me dire, on va reprendre l'atelier de philosophie. Voilà. Toc. Et donc là, c'est plutôt sympa. Vous voyez que, bon, on a envie d'y aller, quoi. Je veux dire, voilà, on a envie d'être lumière du monde. Hein. Bon, là, ça passe par la philosophie. C'est peut-être pas très catholique, mais c'est pas grave. Je veux dire, voilà. Donc, vendredi 23 mai à 18h, on remet ça. Et on mettra ça sans doute par le même système qu'aujourd'hui, par Zoom ou je sais pas trop quoi. Dans tous les cas, donc on fait confiance à Bernard pour nous organiser cela. Et il m'a pas donné le titre de la réflexion qui va animer nos discussions. Mais enfin bon, il n'y a pas de souci. Il a l'esprit suffisamment fertile pour ça. Donc retenez bien le vendredi 23 mai. Si vous voulez participer à cette réunion, eh bien vous mettrez en contact avec Bernard, voilà, qui vous donnera les codes d'accès, etc. Enfin voilà. Alors, ça, c'est la première annonce.
Vous me permettez de couper. Le vendredi, c'est un 22 mai, c'est pas le 23.
Ah, c'est le 22 mai. Bon, autant pour Bernard ou moi, il y en a un des deux qui a pas compris ou qui a mal prononcé, je sais pas, ou les deux à la fois peut-être, c'est pas possible. Oui, donc c'est le vendredi 22 mai.
C'est moi qui me suis trompé, le 22 mai.
Ah, qui t'es planté. Bon, voilà ce que c'est que d'être philosophe, mon pauvre. Tu vois, on n'a pas toujours les pieds sur terre. C'est comme les théologiens. Oui,
hein. J'ai fait ça très vite. Je pensais finir sur la liberté, mais sauf si vous avez un autre thème.
Voilà. Je ne sais pas si vous entendez bien.
Oui, nous entendons bien.
Bon. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à faire? Parce que moi, je suis quand même un peu paumé, moi, dans les annonces. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à faire?
Le conseil presbytéral mardi, hein, à 20h, sur Zoom.
C'est de mardi qui vient, là, voilà,
à 20h. Mardi qui vient, à 20h sur Zoom, oui.
Voilà. Vous avez bien entendu, conseil presbytéral sur Zoom, voilà, à 20h. Samedi prochain, il y aura à nouveau notre petite rencontre biblique, hein, et donc là, je vous présenterai des textes du Nouveau Testament, et peut-être un ou deux de l'Ancien, je ne sais pas, qui sont directement relatifs à l'argent. Hein. On peut passer vers deux maîtres ou deux à la fois, ou Dieu au mammon, là, voilà, Dieu ou l'argent, etc., le jeune homme riche, enfin, rendez à César ce qui est à César, enfin bref, tout ce type de textes, enfin, peut-être pas tous à la fois, mais au moins un certain nombre de textes pour voir un petit peu, bon, ce qu'on peut en dire, et puis en sortir aussi peut-être quelques conclusions pratiques, si je puis dire. Voilà. Alors, à ce titre, je voudrais remercier ceux qui participent financièrement. Il y a quelques enveloppes qui arrivent au secrétariat, mais n'oubliez pas vos églises, elles fonctionnent toujours, hein, il n'y a pas de problème. Si vous avez quelque chose à faire, vous pouvez toujours faire un chèque ou envoyer sur le RIB, je ne sais pas pourquoi, quelque chose qui nous permettra de vivre un petit peu, quoi, de vivre quand j'ai de faire vivre l'Église, hein. On se comprend, je veux dire. Hein, voilà. Alors, même si vous êtes comme la pauvre veuve, quelques piécettes viendront mettre du baume au cœur au trésorier ou à la trésorière qui le recevra. Voilà, n'oubliez pas votre Église.
Je peux intervenir.
Ouais. Alors, c'est qui?
Nicole.
C'est Nicole, trésorière, voilà.
À partir de maintenant, la nouveauté, c'est que vous pouvez faire un don en ligne à partir de notre site. Voilà.
Voilà. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Voilà, d'autres annonces peut-être, non?
Du Thierry, c'est bien. Bravo. Oui.
De quoi?
Le don en ligne. Très bien.
Ah oui, ouais. Bien sûr. Bien sûr. Hein? Voilà. Mais écoutez, mes bons amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je salue ceux qui sont un petit peu loin, évidemment, de géographiquement parlant. Et puis, bon, bah, vous direz bien des choses à toutes celles et ceux que vous rencontrerez. On pense à eux, bien évidemment. Et puis, on espère se retrouver soit samedi prochain à 10h30, soit dimanche, évidemment, pour le culte, bien sûr. Et voilà, donc passez une très très bonne semaine. J'espère que la rentrée pour nos jeunes générations passera comme il faut, bien sûr, bien évidemment, et que ceux qui reprennent le travail, eh bien, le reprendront aussi dans des très bonnes conditions, bien évidemment aussi. Voilà, en attendant mieux. Portez-vous bien, et donc à très très bientôt, un bon dimanche à tous.